RMC Intégral Tour. J'adore rouler. Pignon fixe. Pas de frein. Je peux pas arrêter. Martial Fernandez.
De toute façon, je veux pas.
Et là que pour toi et ton vélo, t'es qu'un égoïste.
18h05, comme tous les jours, pendant le Tour de France, c'est l'heure de la première édition d'RMC Sport. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Et on commence par une bonne nouvelle pour le sport français, ça s'est passé du côté du Brésil Guillaume.
C'est un exploit effectivement pour l'équipe de France masculine de volleyball qui décroche donc en 2015 un premier titre international. La France s'impose en Ligue mondiale, un succès 3-7-0 face à la Serbie. Benjamin Glaise a suivi ce match pour RMC. Benjamin, exploit vraiment ce soir pour les hommes de Laurent Tilly.
C'est tout simplement le premier titre international pour les Bleus en volleyball. Les Bleus remportent la finale de la Ligue mondiale et n'ont laissé aucune chance à la Serbie, troisième du dernier Euro. Une victoire historique, 3-7 à rien. La dernière fois que les Bleus avaient été en finale, c'était en 2006, on s'en souvient. Les tricolores avaient perdu 3-7-2 cette fois-ci. Aucune chance laissée aux finalistes, aux Serbes. Pour vous raconter rapidement le fil du match, le premier set est remporté facilement par les Bleus, 25-19. Dans le deuxième set, c'était un peu plus difficile, 14 partout avant que les Bleus ne l'emportent 25-21. Dans le troisième set, tout s'est joué sur la fin. Les Serbes menaient encore 20-17 avant que les Bleus ne reprennent l'avantage et pour s'imposer sur leur deuxième balle de match. Score final donc 25-19, 25-21 et 25-23 pour les Bleus. Pour la qualification pour les Jeux Olympiques, par contre, ce n'est pas encore fait. On attendra le tournoi qualificatif européen. Ça sera en janvier, mais en tout cas, c'est un grand jour pour le volleyball français.
Et les Bleus qui ont remporté 17 de leurs 18 dernières rencontres, donc chapeau vraiment pour les partenaires d'Hervin Engapet.
Et une belle ligne au palmarès, le Tour de France et une ligne de plus à son palmarès, ça fait 3 déjà pour André Geipler sur ce Tour.
Ouais, patron du sprint effectivement, André Greipel, l'Allemand de la formation Lotto qui s'impose sur cette 15e étape que l'on va décortiquer avec l'envoyé spécial d'RMC, Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut Guillaume.
Il est tout en haut, hein, sur le toit du monde concernant le sprint mondial, André Greipel. Il l'a prouvé une nouvelle fois aujourd'hui.
Il ne laisse pas beaucoup de choses à ses adversaires, effectivement. Troisième victoire d'étape pour André Greipel. On savait que ce Tour de France ne faisait pas vraiment la part belle aux sprinteurs. Et lorsqu'il y a un sprinteur qui est vraiment au-dessus du lot, eh bien les autres font grise mine. André Greipel qui signe là donc sa troisième victoire. Il n'en aura pas beaucoup d'autres dans ce Tour de France parce que désormais, il n'y restera plus qu'une chance à André Greipel de lever les bras en vainqueur à l'arrivée d'une étape du Tour de France. Ce sera sur les Champs-Élysées dimanche prochain parce que d'ici là, eh bien plus aucune chance pour les sprinteurs. On va attaquer la montagne ou des étapes de moyenne montagne comme celle de demain. Et puis à partir de mercredi, les Grandes Alpes pour terminer l'Alpe d'Huez samedi. Et puis évidemment, la dernière étape, ce sera pour dimanche. Greipel qui s'impose donc devant Degen Kolb. A noté une échappée avec une nouvelle fois Thibaut Pinot au sein de l'échappée. Mais cette échappée a été reprise rapidement lorsque les coureurs du peloton sont descendus vers Valence. Un peloton où règne une drôle d'atmosphère ce soir au lendemain, vous le savez, de l'agression dont a été victime Chris Froome qui a reçu un jet d'urine sur le visage. Autour de la formation Sky, autour du bus de la formation Sky, des policiers ont pris place et Dave Bresford et son directeur sportif Nicolas Portal se disent très attristés de la situation sur le Tour de France aujourd'hui pour son équipe qui s'est fait siffler une nouvelle fois aujourd'hui sur les routes du Tour.
Merci Christophe, on entendait hier lors de la 14e étape la frustration pour nos deux Français Thibaut Pinot et Romain Bardet. Aujourd'hui c'est le coureur de la formation Europe car Brian Cocard qui termine 15e et qui s'attendait clairement à mieux. Brian Cocard.
Je fais bien l'effort, l'équipe a roulé, je me fais vraiment violence dans le grimpeur et puis voilà, je venais juste de regarder la ligne, il y avait 250 mètres. Donc voilà, j'étais en train de produire mon effort et puis voilà, je me fais, je sais pas, ouais, il m'a touché le coude et voilà, j'ai failli me, je suis pas tombé, je déraille et tout, c'est déjà. Voilà, ouais, je suis déçu parce que j'avais fait le max du boulot, au final, il n'y a pas de résultat, quoi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un top 10 pour l'équipe.
Voilà la déception de Brian Cocard au micro de Pierre-Yves Leroux. On vous rappelle d'ailleurs que la formation Europcar n'a toujours pas remporté la moindre étape sur ce Tour de France. Et puis il a couru aujourd'hui avec courage, avec panache, Jean-Christophe Perrault qui avait chuté mardi. Et est-ce pas continuer le Tour, Jean-Christophe Perrault? Eh bien, vous allez l'entendre. Il a laissé planer le doute, Jean-Christophe Perrault.
C'est de plus en plus dur pour moi tous les jours. Des douleurs un peu partout, les vibrations me font mal. C'est le Tour qui va me croquer, tout simplement. Ça fait le cas aujourd'hui, donc s'il n'y a pas de mieux demain, je donne pas cher de ma peau. Hein.
Voilà, Jean-Christophe Perrault, on y revient sur cette étape du Tour de France dans quelques instants, bien sûr, 18h20, votre rendez-vous tous les jours avec Cyril Guimard, direction Londres maintenant, avec des tennismen français qui font grise mine.
RMC, Coupe Davis, quart de finale, Grande-Bretagne-France.
C'est terminé pour l'équipe de France de Coupe Davis. Donc après la défaite ce dimanche de Gilles Simon en simple face au numéro 3 mondial Andy Murray en 4 manches, on va rejoindre à Londres Eric Salio. Et bonjour Eric.
Bonsoir.
Que de regrets pour Gilles Simon qui avait fait un début de match tonitruant contre Andy Murray. Mais c'est vrai qu'après le numéro 3 mondial a su retrouver son meilleur niveau pour l'emporter. Hein.
Ça s'est joué à des détails, comme souvent face aux meilleurs joueurs du monde, puisque Gilles Simon a d'abord mené un set, un break. Et puis dans ce tabac du deuxième set, il n'y a pas eu de réussite. Andy Murray a su sortir les points qu'il fallait pour écarter la menace et surtout se donner de l'air. Parce que s'il avait été mené 2-7-0, eh bien peut-être qu'on serait en train de disputer le cinquième match ici. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Et Gilles Simon était tout à fait conscient d'être passé tout près d'un petit exploit, on l'écoute.
Ouais, c'est dur. J'avais réussi à me mettre en position. J'avais réussi à faire ce qu'il fallait pendant une grosse partie du match. Et effectivement, la perte du second, c'est un peu dur. Derrière, je sais qu'au troisième, ça va être plus compliqué. Mais pour autant, je me sentais encore bien physiquement. J'ai l'impression que je pouvais jouer encore un bon moment. J'avais envie de tout mettre dès le début du quatrième. Et malheureusement, ça s'est très très mal passé. Puis sur la fin, je pouvais plus du tout.
Voilà la déception pour Gilles Simon, donc 3-1 avant le dernier simple qui va se jouer.
Non,
d'ailleurs
il n'y aura pas
de
dernier simple,
dernier simple, vous le confirmez Eric? Non.
Oui, bien sûr, non, la partie est finie, il y a un nouveau règlement qui a été dicté. Non, maintenant les questions se posent parce que c'est un nouvel échec pour Arnaud Clément, trois échecs en Argentine contre la Suisse en finale, et puis ici où on savait que c'était quasiment une finale, et on l'écoutera plus tard, le président Gachassin était un peu fâché, il veut que ça change un peu parce que lui il aimerait bien finir un mandat sur un salaire d'argent. Arnaud Clément lui aussi va essayer de tirer le son de cet échec. Et ne faut-il pas miser sur un vrai double désormais, puisqu'on savait que c'était le point pivot de cette rencontre face aux Britanniques. Il a préféré profiter de la variété de son banc. Le problème, c'est qu'on est arrivé à 5 et on finit à 3, puisque ce qui ressort, c'est qu'on n'a pas vu du tout Richard Gasquet du week-end, et il venait de faire demi-finale à Wimbledon. Alors, il y avait des raisons, il était un peu touché physiquement, mais au final, voilà, vous avez 4 joueurs dans le top 20, eux, ils ont un grand champion, et ça suffit.
Merci Eric pour toutes ces précisions. Donc on connaît maintenant le programme des demi-finales de la Coupe Davis, ce sera la Grande-Bretagne contre l'Australie, puisque Leighton Hewitt a permis aux Australiens de s'imposer 3-2 contre le Kazakhstan. L'autre demi-finale mettra aux prises la Belgique et l'Argentine, deux nations qui n'ont jamais encore remporté le saladier.
RMC France Olympique.
Les championnats du monde d'escrime, Guillaume, à Moscou avec une équipe de France qui fait elle aussi grise mine.
Dernière journée positive quand même avec l'équipe de France féminine de Fleuret qui décroche la 3e place. On va faire le point avec Rodolphe Massé et dans la capitale russe. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Une bonne habitude pour l'équipe de France de Fleuret féminine qui avait décroché le bronze déjà il y a un an au championnat du monde 2014. Et bien elle a récidivé avec la manière aujourd'hui.
Effectivement, les fleurettistes françaises sont montées sur le podium et c'est une bonne nouvelle pour l'escrime française, même si on attendait aussi les fleurettistes français qui ont été champions du monde en titre et qui malheureusement ont échoué à la 4e place aujourd'hui. Mais c'est vrai que les filles, autour d'Astrid Guyard, la doyenne de l'équipe, avec Isaora Tibus, la leader de cette formation, et avec la toute jeune Pauline Ranvier, en plus d'Anita Blaz, elles ont réussi une belle journée en battant d'abord la Corée du Sud, en perdant d'un rien en demi-finale contre la Russie, mais en se ressaisissant ensuite dans le match pour la 3e place en dominant la Hongrie d'une petite touche à la prolongation, à la mort subite. C'est Isaora Tibus qui a réussi cette touche pour la médaille de bronze. On écoute Isaora Tibus et Anita Blaz, leur réaction juste après avoir décroché cette médaille.
J'ai pleuré là quand même sur la dernière touche, j'ai eu une larme, mais c'est des larmes de joie. Je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec les filles. On est revenu de loin, on voulait toute une médaille pour partir aux vacances bien, donc je suis vraiment heureuse. À une touche, c'est un match difficile, mais que du bonheur.
Elle fait du bien, il y a beaucoup de joie, surtout qu'en demi-finale, on ne perd pas beaucoup. Et là, la 3e place, on s'est battu et on l'a eu. Et je suis très contente des filles, de Pauline, d'Isa, d'Astrid. On a bien tiré aujourd'hui et qu'on mérite notre médaille.
Rodolphe, l'équipe de France d'escrime termine donc ses mondiaux avec 3 médailles, 2 en argent et 1 en bronze. Pas franchement le bilan escompté, hein.
Ah, C'est un bilan qui n'est pas satisfaisant. Ce sont les mots du DTN Christian Peters qui lui avait fixé un objectif de 5 médailles dont 2 en or. Donc effectivement, on est très loin de ce bilan escompté. Ce qui est sûr, c'est que l'escrime française semble être retombée dans ses travers puisqu'aujourd'hui tout s'est joué en coulisses après les déclarations d'Hugo Bry qui a annoncé vouloir quitter son poste d'entraîneur des épéistes après les Jeux Olympiques de 2016 en dénonçant un système, en s'en prenant aussi à une personne, en l'occurrence le vice-président de la Fédération française d'escrime. Eh bien, les dissensions sont réapparues au grand jour puisqu'Isabelle Lamour, la présidente de la fédération, a demandé au DTN de suspendre immédiatement de ses fonctions, de mettre fin aux fonctions d'Hugo Bry dès aujourd'hui. Elle l'a annoncé aux épéistes concernés juste après les compétitions. Il y avait comme une ambiance de malaise aujourd'hui à Moscou au sein de l'escrime française.
Merci Rodolphe et merci de nous avoir fait vivre tout au long de la semaine ces championnats du monde d'escrime du côté de Moscou.
Les rugbymen de l'équipe de France toujours au boulot à Tignes.
Oui, après une journée de repos mérité, on en parlait hier effectivement. C'est vrai que le groupe France a retrouvé ses habitudes avec un réveil musculaire, avec de la musculation, un point presse, le traditionnel point presse, et puis du jeu derrière avec des groupes de 12 joueurs. Tout cela se passe en tout cas dans les meilleures conditions. Écoutez le talonneur du 15 de France, Benjamin Kaiser, il est au micro de Laurent Depré.
Ce qui m'a vraiment agréablement surpris, en tout cas même si je l'espérais et j'en rêvais, c'est cette ambiance, c'est cet état d'esprit collectif qui est vraiment magnifique depuis le début. Alors ça fait pas tout, ça veut pas dire que tout est gagné. Là, tout le monde se donne à 150%, qu'on soit bon, pas bon, vieux, jeune, que tout ce que tu veux. Ça se donne, ça s'encourage, ça va dans le bon sens. Donc pour l'instant, honnêtement, je suis très très surpris par l'état d'esprit collectif.
Voilà, Benjamin Kaiser qui répondait aux questions de Laurent Depré. Un mot transfert pour vous dire que l'attaquant belge est d'Aston Villa. Christian Benteke va rejoindre Liverpool. Montant de la transaction est 46,5 millions d'euros. Et puis on peut parler de golf également avec le British Open. Très perturbé par les conditions dantesques que l'on sait. C'est pas terminé effectivement, c'est la suite du troisième tour pour le moment. Quatre hommes en tête, l'américain Jordan Spieth, l'irlandais Paul Dunne, l'australien Jason Day et l'anglais Danny Willett. Pour notre français Langasque, que c'est un petit peu plus difficile, mais il aura encore sa chance demain.
Et c'est un amateur et c'est vrai, tu l'as dit Guillaume, exceptionnellement ce British Open se terminera demain, lundi. On te retrouve à 19h, juste pour revenir sur le rugby, on sera avec Louis Picamol, nous aussi à Tignes, le troisième ligne centre de l'équipe de France et de Toulouse. Et puis, dans quelques instants, avec nous Cyril Guimard pour revenir sur cette victoire au sprint d'André Greipel.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h18 sur RMC, l'heure de retourner sur le Tour de France du côté de Valence aujourd'hui avec Cyril Guimard. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Cyril, 15e étape, Mende-Valence, 183 km. Tu nous le disais hier, c'était une étape cochée par les sprinteurs et ils n'ont pas raté leur coup. En tout cas, l'Allemand André Greipel lui a réussi, remportant sa troisième victoire sur ce Tour de France. J'ai juste rappelé le classement de ce sprint. Cyril, Greipel devant Degenkolb, Christophe, Peter Sagan, Boissonhagen, Navardauskas et le premier français, Christophe Laporte. Pas de Cavendish dans ce sprint parce qu'il a été très tôt lâché dans cette étape. En tout cas, Cyril Greipel a montré une nouvelle fois que dans les sprints groupés sur des étapes on va dire de plat, en tout cas sans grande difficulté, c'était le plus fort cette année.
Oui, il est incontestablement le plus véloce, le plus rapide, le plus puissant. C'est un véritable dragster sur les 200 derniers mètres, très très bien emmené aussi, il faut le dire, par une équipe rodée à ce type d'exercice. Il manquait aussi Cavendish, mais Cavendish qui est en train de passer à côté de son Tour de France. À aucun moment sur depuis le départ, à l'exception de d'une victoire. À la hauteur de ce qu'il était les années précédentes où il gagnait 4, 5, jusqu'à 6 victoires d'étape. Est-ce peut-être le déclin de Cavendish? Mais quand on laisse la place, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui vient s'y mettre. Et Greipel, avec 3 victoires d'étape cette année, est en train de faire carton plein. Il lui restera bien sûr une possibilité d'arriver à 4 Kittel.
Marcel Kittel.
Marcel Kittel qui les deux dernières années avait été chercher 4 étapes. Le cyclisme allemand se porte bien finalement, mais Greipel, c'est vrai, aujourd'hui il est le plus fort.
Voilà, il a gagné d'ailleurs devant un autre compatriote, hein, John Degenkolb en plus. Aujourd'hui, je disais, Peter Sagan, quatrième, Cyril. Sagan qui s'est glissé dans l'échappée du jour pour aller chercher des points pour le maillot vert. Est-ce qu'en se glissant comme ça dans l'échappée, il n'a pas usé ses forces et il s'est pas un petit peu condamné un peu plus pour le sprint final, Sagan? Est-ce qu'il vise pas plutôt le maillot que la victoire d'étape maintenant?
Ah, c'est évident. En termes de stratégie, ce qu'il a fait depuis trois jours est extraordinaire. Il est allé chercher tous les points qu'il pouvait aller chercher, en dehors d'une victoire, bien sûr, à Rodez, où Van Avermaet l'a mis à la raison. Mais c'est vrai que maintenant, il est dans l'obligation d'aller chercher des points à mi-parcours, des points qu'il va engranger et qui lui permettent ce soir, malgré la victoire de Greipel, d'avoir 44 points d'avance pour le maillot vert. Il reste une étape où les choses peuvent encore se passer, ce serait à Paris. Si Greipel et lui ne marquaient aucun point, et sur le dernier sprint, Sagan se ratant et Greipel gagnant, Greipel l'emporterait. Mais il va rester encore demain et sur les étapes de montagne, souvent avant la première difficulté, il va rester des sprints intermédiaires. Donc le classement du maillot vert n'est pas fini, mais Peter Sagan a quand même eu raison d'aller chercher le maximum de points qu'il pouvait. Gagner au sprint devant Greipel, il sait qu'il lui manque un petit quelque chose, même par rapport à Degenkolb. Donc jouons dans la cour où on peut jouer. S'il va à Paris avec le maillot vert, ça sera quand même, tenez-vous bien, son quatrième.
Ce qui est pas mal. Dans la cour du classement général, Cyril, il n'y a pas eu de changement aujourd'hui, hein, toujours la même chose, hein, statu quo. On verra demain si ça s'explique. Et puis on a vu aussi le calvaire, en tout cas le mot est peut-être fort, je sais pas, de Jean-Christophe Perrault qui continue. En tout cas, c'est très courageux ce qu'il fait parce qu'il souffre et il a fini encore très loin aujourd'hui et il n'a pas eu souvent le sourire sur l'étape.
Oui, calvaire, j'ai presque envie de dire enfer. Et c'est peut-être un calvaire en enfer qu'il est en train de vivre.
Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu étais son directeur sportif, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu te sens déjà? Mais
s'en doute.
Oui, non, mais est-ce que ça vaut le coup de savoir que tous les jours, ben, on va en passer par là?
Le problème, c'est que c'est le Tour de France. Oui. Et dans le Tour de France, on n'abandonne pas. On est contraint à l'abandon, mais on n'abandonne pas. À part éventuellement peut-être des coureurs étrangers qui n'ont pas le même affect ou le même respect par rapport au Tour de France. Si vous prenez un Australien ou un Américain, le Tour de France, ils ont commencé à en entendre parler quand ils sont passés professionnels. Mais pour un Français, en tout cas, on est contraint à l'abandon, mais on n'abandonne pas. Et donc il ira au bout et je pense qu'il prendra le départ demain. Il y aura l'étape, s'il passe demain, il y aura l'étape de repos mardi.
Ça va faire du bien. Ouais.
Et là, il faudra prendre des décisions. Mais de toute façon, la décision, elle appartient au final au coureur. Le directeur sportif, le manager peut dire ce qu'il en pense, ce qu'il souhaiterait éventuellement, dans l'intérêt, on va dire, de l'intégrité physique du coureur. Il y a les médecins de l'équipe qui, eux, ont la possibilité de l'arrêter sur ordre, en disant non, on est désolé, mais on te donne pas le feu vert pour partir pour telle et telle raison d'ordre médical et surtout par rapport donc à l'intégrité physique et aux conséquences si on continuait. Mais à part le médecin qui peut dire stop, c'est fini, tu pars pas, et là, c'est pas négociable. Après, c'est le coureur qui va décider. C'est le coureur en fonction de ce qu'il ressent, mais il y a un moment, s'il peut plus, il peut plus, quoi.
Ouais, il a d'ailleurs terminé dans le groupe de Cavendish, justement, dans le dernier peloton à un quart d'heure, 15 minutes du vainqueur André Greipel. Il y avait quand même d'autres, il était pas tout seul. C'était déjà ça qui était bien pour lui. Demain, Cyril, 16e étape, Bourg de Péage Gap, c'est 201 km. Avec, il y a quand même un col de deuxième catégorie, le col de Mans, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Après, ce sera une descente. Est-ce que tu penses que demain, on peut avoir une bagarre pour le classement général? Est-ce que les favoris vont s'expliquer ou pas?
Ah, c'est un final qui a toujours été très spectaculaire avec la côte, avec le col de Mans, mais c'est pas moins le col de Mans que la descente de la Rochette. Vous vous souvenez de ces images extraordinaires dans cette descente où Bellocchi chute et où Lance Armstrong traverse tout un champ en vélo. Bellocchi, ce sera malheureusement pour lui pratiquement la fin de sa carrière car il ne reviendra jamais à son meilleur niveau. Et il s'est toujours passé quelque chose dans cette descente très technique, très rappeuse, très surprenante à certains moments. Et donc, tout le monde sera très tendu dans cette descente. Est-ce qu'il y aura des attaques? Quand il y a des attaques, il y en a toujours qui vont au talus. Donc la montée, oui, mais la descente surtout, il faudra la surveiller.
Et tu penses qu'il y a parmi les favoris des gens qui peuvent attaquer Froome sur la descente? Donc c'est ça que tu...
Oui. Non, c'est pas interdit d'attaquer dans une descente. C'est pas interdit. Et moi j'ai vu.
Et Froome, c'est un bon descendeur ou pas?
Comment?
Froome, Christopher Froome, c'est un bon descendeur
Froome
ou pas?
Descend bien. J'ai vu aujourd'hui qu'il était un peu crispé. Il était un peu crispé dans les descentes qui étaient un petit peu humides aujourd'hui, où il avait plu avant le passage des coureurs. Un peu crispé, plus d'ailleurs que Quintana. Alors imaginons qu'il y ait un petit orage demain, une descente humide. Pourquoi pas une attaque de Quintana? Oui, pourquoi pas. Ou de Contador qui descend très bien sur le mouillé.
On rappelle d'ailleurs Quintana à 3.10, deuxième, Van Garderen à 3.32 de Froome, Valverde à 4.02 et Contador le cinquième à 4.23. Cyril, on te retrouve à 19h avec toute l'équipe du côté de Valence pour revenir une nouvelle fois sur cette 15e étape du Tour de France remportée par l'Allemand André Greipel. À tout à l'heure, Cyril.
À tout à l'heure, ça va frotter pour rentrer dans le quart.
Il faut se faire laisser emmener par l'équipe et tu verras, tu passeras.
Je vais me laisser emmener par Lucho, mais comme il vire pas bien, j'ai peur de tomber.
On va pas t'apprendre à faire des sprints quand même, Cyril. À tout à l'heure, Cyril. On va partir du côté de Londres. Là, c'est un autre maillot vert. C'est du gazon avec la victoire de la Grande-Bretagne 3-1 face à l'équipe de France. Aujourd'hui, Gilles Simon n'a rien pu faire pour différentes raisons face à Andy Murray.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h29, on est ensemble jusqu'à 19h avant de retourner sur la route du Tour du côté de Valence. On ira à Tignes avec Louis Picamol, le trois quarts centre de l'équipe de France de rugby. On ira aussi du côté de Moscou pour faire un bilan de ces championnats du monde d'escrime avec une nouvelle médaille aujourd'hui pour le fleuret, mais malheureusement pas de titre et un bilan en deçà des objectifs de la fédération, et puis une ambiance lourde aussi du côté de l'escrime avec Hugo Bric qui va sans doute être mis à pied du côté de la fédération parce que ses propos dans la presse et sur RMC Sport ce matin notamment n'ont pas plu à la présidente de la fédération française, Isabelle Lamour. Le tennis et la défaite de l'équipe de France battue 3-1 par la Grande-Bretagne.
RMC Coupe Davis, quart de finale, Grande-Bretagne-France.
Et on est avec Sarah Pitkowski de la Dream Team. Salut Sarah.
Salut Martial.
Alors Sarah, Gilles Simon, j'ai envie de dire, a fait ce qu'il a pu, mais il a perdu quand même. En 4-7 face à Andy Murray cet après-midi. Il avait gagné la première manche 6-4 avant de faiblir. 7-6, le tie-break du deuxième a peut-être été le tournant du match. Puis après 6-3, 6-0 avec un Simon peut-être un peu diminué. Sarah, est-ce que tu penses que c'est ça qui a été le tournant de la rencontre face à Andy Murray aujourd'hui?
Non, je pense pas que ça soit la cheville de Gilles qui a commencé à le faire souffrir au début du quatrième. Faut aussi savoir qu'Andy Murray avait véritablement une gêne à l'aine, l'adducteur, puisqu'on l'a vu à deux reprises glisser vendredi et samedi, et lui aussi était pas spécialement bien en point tout au long du match. Il a commis un nombre incalculable de fautes, je crois 48 fautes directes sur les trois premiers sets. Donc il y avait une opportunité, et on revient dans le détail. Gilles menait 1-7-0, il a mené 4-2, il a eu une balle de 5-2, et puis il y a eu ce tie-break où effectivement il a très bien débuté puisqu'il fait le mini-break d'entrée. J'ai envie de dire que le match de Gilles, il est à l'image de toute la rencontre. C'est-à-dire que certes on a perdu, Mais pourtant, dans chacun des trois matchs perdus par l'équipe de France, il y a eu des occasions et à chaque fois, ça s'est joué au tie-break. Ça a été le set ou le set avec le tie-break qui a été le tournant du match. Que ça soit Joe face à Murray vendredi, que ça soit en double hier et que ce soit aujourd'hui. On tourne à 2-7-0. Murray est dans un état d'énervement, il prend warning pour propos déplacés. Je mets pas cher de sa peau au troisième set. Donc on peut très bien jouer un cinquième set, un cinquième match Gasquet contre James Ward. Donc à chaque fois ça s'est joué à pas grand chose. En conclusion, c'est un peu le week-end des occasions ratées.
Ouais. Et justement, est-ce que c'est pas une occasion plus ratée pour cette génération, Sarah?
Ouais, malheureusement.
Parce que quand on voit le tableau, on voit le tableau derrière, il y a pas de grosses équipes. Il y a Belgique-Argentine d'un côté, puis il y a une Australie qui gère ses genoux comme elle peut, qui s'est qualifiée grâce à ses vieux briscards.
Oui.
Aujourd'hui, hein.
Il y avait la place. Mais bien sûr, il y avait la place. On voit la Belgique qui joue sans, la Belgique qui passe, mais le Canada qui joue sans Raonic, la Serbie qui joue sans Djokovic. Ouais. Donc si tu veux, les grosses nations, enfin les nations avec les tout meilleurs mondiaux, eh bien elles n'étaient pas présentes. Donc c'est vrai qu'on peut dire encore une fois c'est une occasion ratée, mais je pense que là, les années avançant, c'est sûr que ça, on se dit que cette génération qu'on a eue, eh bien il est fort probable qu'elle parte sans titre en Coupe Davis, qu'elle le méritait tant. Le terme n'est peut-être pas tout à fait juste, mais en tout cas qu'elles aspiraient à gagner parce qu'on parlait de cette fameuse génération homogène, mais c'est peut-être ce qui nous a perdu cette homogénéité entre tous les joueurs. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement interchangeables sur le papier que finalement les différents capitaines ont peut-être pas pris des risques, ont peut-être pas été assez audacieux pour imposer des joueurs de simple et des joueurs de double, parce que finalement tout le monde pouvait jouer en simple et en double, et au final ça donne ça, c'est-à-dire qu'on reste souvent sur notre fin, on n'est pas loin mais ça passe pas.
Alors cette frustration, Eric Salio qui vient de nous rejoindre, bonsoir Eric.
Bonsoir.
Eric, tu reviens des confs de presse, tu es allé recueillir les premiers propos des joueurs, du staff. Qu'est-ce qu'on dit après cette défaite?
Rageant, c'est le mot qui revient effectivement dans les bouches de Gilles Simon, de Joe Wilfried Tsonga, de Richard Gasquet. C'est vrai que Gilles Simon a dit une phrase qui prend toute sa signification. Il a dit: on avait l'impression de jouer au final, de jouer une finale. Et donc c'est ce que je pense disait Sarah, c'est que c'était un match charnière. Qui n'a pas été bien négocié, parce que je dis pas qu'on a négligé le double, mais on a improvisé une équipe de double alors qu'on savait que c'était un point qui était capital. Arnaud avait depuis longtemps misé sur Joe et Nico, ça n'a pas fonctionné. Après, on remarque souvent dans les campagnes de Coupe Davis qu'un grand joueur suffit à remporter un saladier. Andy Murray était énorme, même si Gilles l'a poussé vraiment à l'extrême limite de ses possibilités du jour, parce qu'à la fin il a fondu en larmes, c'est comme si tout s'écroulait. Il est allé chercher très loin ce match, Andy Murray. Ça s'est joué effectivement au deuxième set. Si Gilles bascule à 2-7-0, peut-être que la France était en demi-finale à la Coupe Davis. Voilà, ça se joue à des détails, mais ces champions-là comme Murray ont l'habitude de gérer ces moments de stress. Et il a été remarquable, et tous les joueurs lui tirent le chapeau, évidemment.
Sarah, maintenant, oui, c'est juste Sarah, tu parlais
de poser des questions sur la stratégie à venir, effectivement.
Pour la suite, juste restons sur Andy Murray quelques instants. Sarah, quand on voit l'implication de Murray, sa façon de se comporter sur le court depuis vendredi, et ça se termine par beaucoup d'émotions à la fin aujourd'hui avec quasiment des larmes. Je ne sais même pas s'il a peut-être pas pleuré. Après sa victoire, il a pleuré, donc il est vraiment allé au bout de lui-même. C'est ce qui manque aussi peut-être à l'équipe de France, d'avoir des gars qui se déchirent.
Je pense qu'ils ont, sincèrement, je pense qu'ils ont très envie. Enfin, on peut pas comparer les envies, si ce n'est que Andy Murray.
Non, je compare les attitudes.
Oui, Andy Murray, il porte toute l'équipe de Coupe Davis sur ses seules épaules. Donc en fait, ses larmes, c'est un peu, c'est ça y est, quoi. C'est un soulagement. C'est-à-dire que depuis vendredi, tout repose sur lui.
Mais
donc
la pression
est énorme. C'est totalement différent. Tu ne joues pas pour toi. Tu joues véritablement pour ton équipe. T'es devant ton public. Et d'ailleurs, pardon, il a à la limite, parfois, de temps en temps, un peu été, pas arrogant, mais voilà, il est allé chercher le public, il l'a fait jouer.
Il
est un peu limite, mais c'est il joue avec son public, il a raison de le faire. On se souvient de Novak Djokovic, il nous a fait quoi à Belgrade quand il monte sur la chaise d'arbitre et qu'il harangue la foule en disant on va les tuer, il faut les battre. Je veux dire, c'est la magie, ou en tout cas c'est le terrain d'une Coupe Davis. C'est quand vous êtes à domicile, vous pouvez être porté par votre public qui peut jouer un rôle, et c'est totalement différent lorsque vous êtes que pour vous dans un grand chelem ou dans n'importe quel autre tournoi. Donc c'est très particulier. Il a fait le boulot et je pense que ses larmes, c'est plutôt du soulagement et d'une fatigue extrême, autant physique que nerveuse, parce que nerveusement, pendant 3 jours, porter toute une équipe, c'est très lourd, c'est très très lourd.
Et il va la porter pareil en demi-finale.
Numéro 3 mondial, qu'il a remporté 2 grands chelems, voilà. Ça dit tout. C'est un immense champion qui joue effectivement avec son frère, avec le capitaine qui est écossais aussi. C'est un ami de longue date. Donc, on a tout résumé. Maintenant, ils vont recevoir l'Australie probablement à Édimbourg. Donc, il y aura encore une ambiance terrible. Maintenant, côté français, ouais, c'est encore une occasion ratée.
Alors la suite, Eric, tu voulais parler justement de la suite pour les Français. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut changer des choses ? Je pose la question.
Alors évidemment, est-ce que le président Gachassin, on l'écoutera plus tard, était assez remonté, il trouvait que il fallait se poser des vraies questions en termes de managerat, donc ça vise évidemment Arnaud Clément.
Il est en danger.
Il est en danger. En principe, il a signé pour 2 ans, donc il a encore une année de prolongation l'an prochain. Et on sait tous que ce sont les joueurs qui choisissent le capitaine. Donc,
je suis pas sûr que ça soit. Enfin, je veux dire, si les joueurs, on leur demande leur avis, j'ai du mal à croire qu'ils disent que qu'Arnaud Clément n'est pas le bon capitaine. Je pense que c'est Arnaud Clément et les joueurs qui doivent prendre une décision
maintenant,
sur. L'esprit à donner à cette Coupe Davis, c'est comment faire les choix, parce qu'on sait très bien qu'Arnaud Clément, les choix, il les prend pas fermes et définitifs, il les partage avec les joueurs. Oui. Donc il faut aussi que, comme quand Joe avait poussé un coup de gueule après l'Argentine, il va falloir qu'ils se réunissent et qu'ils se posent les questions en disant, ok, quand on vient en Coupe Davis, est-ce que ça veut dire qu'on est sûr de pouvoir être aligné en simple et en double? Est-ce que quand on prend une place dans les 4, est-ce qu'on peut se permettre de dire, bah je rentre pas sur le court mais j'attends dimanche pour jouer? Ça vaut pour Richard Gasquet, mais ça vaut pour Gaël Monfils aussi, qui a fait aussi ce genre de choses. Donc moi je dirais que c'est plus aux joueurs de prendre la main et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour prendre notre responsabilité? Et là, le capitaine les portera, puisque les joueurs ont un poids qui est considérable dans cette équipe de France.
Parce qu'on sait un peu comment ça s'est passé, là. Richard est arrivé dimanche soir, il revenait de Wimbledon, il a besoin de couper, et très vite, je pense que le staff a compris que Richard avait pas très envie d'y aller vendredi. Voilà, c'est gênant vis-à-vis du capitaine, c'est gênant vis-à-vis des autres joueurs, parce que ça change peut-être toute la configuration tactique de cette rencontre. Le job du capitaine britannique, mais il est 10 fois plus facile que le job d'Arnaud Clément.
Quand t'as pléthore
alors
de
que
choix,
Arnaud,
c'est toujours difficile.
Mais ça fait des semaines qu'il se remue le cerveau. Ces prises de tête continuent, parce que comment faire? Et puis, allez, on décide de mettre Mahut Herbert. Pourquoi pas? Ça aurait été un coup de poker, pourquoi pas? Je sais pas si ça marche pas, on lui aurait
tenu rigueur aussi. Hein,
oui,
on lui aurait tenu
mais
ça va. Responsable.
Tu mets qui sur le bord de la route? Parce que t'as 3 cadors qui sont là, 3 mecs du top 15.
Oui, mais Richard.
Donc c'est des choix qui sont très durs à faire.
Oui,
vous avez
mais Richard Gasquet,
imagine, tu vis Richard Gasquet qui vient faire demi-finale à Wimbledon.
Mais il a décompressé, il le dit lui-même. Il a eu du mal à remettre la première parce qu'il y a le contre-coup, ce qu'on peut aussi comprendre.
C'est
de cette audace dont on parle. C'est d'être capable peut-être de prendre la décision que le joueur, lui, n'arrive pas à prendre. Parce qu'en fait, il y a dû avoir des discussions. Je suis là, mais je suis pas totalement prêt. Laissez-moi encore 48 heures. C'est l'expérience d'un coach. Et c'est vrai qu'Arnaud, son expérience, elle est au début. Donc c'est vrai que c'est difficile de trancher, de comprendre derrière les propos d'un joueur ce que ça sous-entend. Et c'est là la difficulté. C'est pour ça que je dis que je pense qu'ils vont, ils doivent garder Arnaud Clément. En revanche, les joueurs doivent se poser la question de eux, parler franchement et de pas avoir des doubles discours, de vraiment dire je suis prêt, je suis pas prêt, j'ai mal au bras, j'ai pas mal au bras, je me sens prêt à jouer, je suis pas. On a exactement les mêmes discussions en finale de Coupe Davis face à la Suisse.
Mais n'oublions pas la base.
que nos joueurs français sont moins bons qu'Andy Murray, sont moins bons que Stan Wawrinka et sont moins bons que Roger Federer. Ne l'oublions pas.
D'accord. Ouais, mais il y avait qu'un Andy Murray quand même, hein. Il n'y en avait pas trois aujourd'hui.
Ça suffit.
Bon, il va avoir quelques mois pour réfléchir jusqu'au premier tour de la saison prochaine. Merci beaucoup, Sarah et Eric.
Merci.
Merci, à bientôt.
À très vite, à très vite.
Pour l'US Open.
Et l'US Open, évidemment, à la fin du mois d'août. Nous, on va partir du côté de Tignes. Dans quelques instants, retrouver Louis Picamol, le troisième ligne de l'équipe de France en pleine préparation pour la Coupe du Monde.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
18h44 à 19h, on retournera sur le Tour de France pour discuter avec toute notre Dream Team de cette victoire. Troisième victoire d'étape sur ce tour pour l'Allemand André Greipel au sprint. On ira aussi du côté de Moscou pour parler du bilan mitigé de l'équipe de France d'escrime. Et puis juste l'information aussi, hein, ce soir c'est une première historique pour l'équipe de France de voler, cette fois qui est en train en ce moment même de soulever la Coupe de la Ligue mondiale, puisque les Français ont écrasé en finale la Serbie 3-7-0. Vous avez pu suivre ça tout à l'heure sur RMC, mais tout de suite on va partir du côté de Tignes.
RMC Rugby 2015.
Un petit tour à la montagne, à Tignes, avec l'équipe de France qui est en stage de préparation pour la Coupe du Monde. Hier, c'était repos. Aujourd'hui, les 36 joueurs qui sont repartis au boulot. Et on est avec Louis Picamol, troisième ligne centre de Toulouse et de cette équipe de France. Bonsoir, Louis.
Bonsoir.
Alors, Louis, déjà, j'ai envie de vous demander comment ça va après deux semaines de stage. Il y a eu Marcoussi, maintenant c'est Tignes. Ça va? Ça continue? Vous sentez que ça progresse physiquement?
Oui, ça va. Enfin, la fatigue commence à se faire sentir, mais on voit déjà que qu'on progresse tous individuellement sur nos performances, donc voilà, on voit que le travail paye, donc ça c'est motivant, et même si c'est dur, on s'accroche parce qu'on sait que derrière ça va nous permettre de prendre un maximum de plaisir sur le terrain, donc voilà, on serre les dents.
Vous dites que c'est dur, vous en avez déjà connu une préparation de Coupe du Monde, c'est en 2011. Ouais. Vous savez ce que c'est, il y a des périodes quoi, de haut et de bas, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on ressent pendant cette période?
Non, honnêtement, franchement, on n'a pas trop le temps de se poser des questions, parce que les journées sont faites pour que le temps qu'on a, le peu de temps qu'on a de libre, on essaie de un maximum de récupérer et de se reposer pour pouvoir être d'attaque pour les séances, donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de cogiter, et franchement on sait pourquoi on est là, et on sait tous la chance qu'on a de pouvoir vivre ces moments-là, donc je crois qu'on essaie juste de savourer, même si c'est difficile.
Vous avez quand même eu une petite journée de repos hier, vous avez fait quoi vous, Louis? Parce que tout le monde a fait un petit peu c'était à la carte, vous avez fait quoi vous hier?
Bon, moi, c'était assez simple. Dodo le matin, un bon petit resto le midi, et j'ai axé mon après-midi sur de la récupération et des étirements, voilà, pour essayer de rattaquer cette semaine avec un maximum de fraîcheur, si je puis dire.
Alors là, vous êtes à Tignes jusqu'à la fin de la semaine. Je crois qu'il y a une petite balade en montagne prévue. Vous connaissez déjà le programme de cette semaine? Il y a une petite surprise qui vous attend?
On sait qu'on a 48 heures, on va quitter l'hôtel, mais on ne connaît pas encore le...
C'est le mystère. Voilà. Ça vous inquiète ou pas, ça?
C'est la surprise. Non, ça ne m'inquiète pas, parce que voilà, c'est important de vivre aussi ces moments-là collectivement, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on se resserre et qu'on crée une cohésion et des liens forts dans un groupe. Donc voilà, même si il y a de l'inconnu et que forcément ça nous fait nous poser des questions, et voilà, mais on sait très bien que même si c'est dur, c'est dans ces moments-là aussi qu'on va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire collectivement et comment on est capable de répondre à ce genre de choses ensemble.
On parlait de passer du quotidien très longtemps ensemble, hein, pendant deux mois avec des garçons. C'est aussi important qu'il y ait une bonne ambiance, j'imagine, parce que c'est jamais simple la vie de groupe comme ça, non?
C'est primordial. C'est aussi important que tout le reste, parce que ça reste un sport collectif. Alors certes, la préparation, elle nous sert à progresser individuellement, mais si derrière on vit pas bien ensemble, on tirera rien collectivement cette préparation. Donc c'est sûr que c'est aussi important, si je puis dire, que la préparation, de bien vivre ensemble, de vivre aussi des moments tous ensemble où on prend du plaisir, où aussi on est en difficulté, mais c'est sûr que si on veut faire quelque chose sur cette Coupe du Monde, il faut qu'on se crée quelque chose de fort entre nous pour dans les moments difficiles avoir une réponse collective et être fort ensemble.
À titre personnel, Louis Picamole, vous n'avez pas joué avec l'équipe de France depuis plus d'un an maintenant, depuis le mois de juin 2014. Il vous tarde de retrouver le terrain avec le 15 de France?
Bien sûr, c'est vrai que
ça démange.
Il y a une saison compliquée et de pouvoir être là aujourd'hui, savourer un maximum. Mais c'est vrai que voilà, je serai complètement satisfait et heureux quand j'aurai la chance de retrouver le terrain avec cette équipe et de pouvoir de nouveau m'exprimer avec ce maillot, parce que c'est, faut pas se leurrer, c'est pour ça aussi qu'on fait ce sport et qu'on se lève tous les matins. Donc forcément il y a énormément d'impatience et d'envie de reporter ce maillot et de pouvoir m'exprimer sur le terrain.
Est-ce qu'à un moment, Louis, on se dit on pense, parce que vous êtes un petit peu plus que le nombre pour l'instant, il y en a 36, il y en a 5 qui partiront, ouais. est-ce qu'on y pense parfois en se disant ça peut être moi?
Je mentirais si je dirais qu'on n'y pense pas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement les journées sont faites que franchement, toute l'énergie qu'on a, on essaie vraiment de le mettre sur les séances, sur la récupération. Après, bien sûr que quand il y a des coups un peu moins bien, parce qu'on est fatigué ou quoi, on y pense et on se dit forcément que c'est un passage obligé. On le savait dès le début. Hein, on est 36 et comme vous l'avez dit, il y a 31 places pour partir à la Coupe du Monde. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un groupe de 36 qui prépare cette Coupe du Monde et on a tous le même objectif. C'est de gagner cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif des 36. Il y aura des choix qui vont être faits par le staff et non pas par les joueurs. Donc nous, tout ce qu'on a à penser, c'est de s'envoyer, de donner son maximum. Après, il y a un staff qui est là et qui prendra des décisions et il faudra les accepter, les respecter. Et derrière, de toute façon, les 36 auront fait en sorte que le groupe travaille le mieux possible pour que les 31 aient le plus loin possible dans cette compétition et on fasse tous ensemble de la remporter.
Alors encore quelques jours à Tignes et puis après il y aura quelques jours de repos, il n'y en aura pas beaucoup pendant cet été pour vous. Il faudra bien en profiter.
4 jours pour se ressourcer un petit peu en famille, voir les enfants et les femmes, ça va faire du bien après 3 semaines intensives et avant de repartir sur 3 grosses semaines aussi. Donc voilà, ça va être court, mais ça va faire du bien à tout le monde et c'est important aussi pour que quand on se retrouve, on se soit ressourcé un petit peu et qu'on reparte avec de l'enthousiasme et de la fraîcheur mentale et physique.
Merci Louis Picamole, à bientôt.
Avec plaisir. À bientôt, au revoir.
Allez, à bientôt Louis. On va quitter Tignes maintenant, on va partir à Moscou pour les championnats du monde d'escrime.
RMC France Olympique.
Championnats du monde d'escrime qui se sont terminés aujourd'hui avec une nouvelle médaille française. On va y revenir. On est avec Rodolphe Massé. Salut Rodolphe.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Alors Rodolphe, on va parler du bilan moyen, très moyen de cette équipe de France, en tout cas très en deçà des objectifs annoncés.
Ah ça c'est sûr, l'équipe de France avait réussi des mondiaux.
On s'était vu
très
beau, Rodolphe.
Non, c'était pas vu trop beau. Ce qui est sûr, c'est que la hiérarchie mondiale a été bouleversée dans la plupart des armes. Ça, c'est une certitude, mais ça n'excuse en rien le bilan médiocre des Français. Christian Peters, le DTN, avait parlé d'un objectif de 5 médailles, dont 2 en or, en s'appuyant sur le bilan des mondiaux l'an dernier, en s'appuyant sur le bilan des championnats d'Europe en juin dernier, où il y avait eu 6 médailles, dont 3 en or. Donc forcément, le bilan aujourd'hui ne peut pas être un bon bilan pour le DTN Christian Peters. Je vous propose de l'écouter.
La situation est plutôt bonne et il faut noter que même si on n'a pas les médailles qu'on venait chercher à ces championnats du monde, on est encore dans les meilleures nations mondiales. On finit à maintes reprises dans le dernier carré, donc ça c'est plutôt bon. Quand on s'est pas qualifié dans le dernier carré, on a su aller chercher des ressources pour marquer des points pour cette sélection olympique. La sélection olympique, elle a commencé au mois de mars 2015. Elle se terminera au mois d'avril 2016. Donc il y a encore du chemin à faire et je sais que toutes ces équipes et tous leurs entraîneurs vont s'engager là-dedans.
Voilà, Christian Peters, le DTN, Rodolphe Massé. Juste quand même, il y a eu une médaille de bronze aujourd'hui pour les fleurettistes féminines. Hein. C'est ça la 3e médaille. Hein.
Oui, la troisième médaille après l'argent de Gauthier Grumier à l'épée et l'argent de Cécilia Berder au sabre. Les fleurettistes françaises ont décroché une belle médaille de bronze aujourd'hui parce qu'elle n'était que cinquième mondiale avant le début de ces championnats. Donc obtenir le bronze aujourd'hui est plutôt un bon résultat. Elles ont surtout su trouver les ressources pour s'imposer lors de la petite finale face à la Hongrie, à la prolongation, à la mort subite grâce à une touche d'Isaora Tibus. Alors le problème, c'est que le fleuret féminin, il n'y aura pas d'épreuve par équipe, donc on va dire que c'est un résultat qui compte pour du beurre. Là, on vient d'écouter Christian Peters qui parlait des qualifications olympiques, parce que même si le bilan comptable en termes de médailles n'est pas bon sur ces championnats du monde, 3 médailles seulement, en revanche, en termes de points pour la qualification olympique, il n'y a vraiment pas péril en la demeure, loin de là, puisque les 4 collectifs qui auront une épreuve par équipe à Rio en 2016, eh bien, restent tous ou se sont repositionnés dans des conditions idéales, ou si ce n'est pas idéal, favorables pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça que le bilan, il y a 2 lectures. Au niveau des médailles, il n'est pas bon. Au niveau de la qualification olympique, il est, on va dire, correct.
Mmh. Rodolphe, au niveau de l'ambiance, il y a une seule lecture. En revanche, c'est très tendu avec Hugo Bry qui va être mis à pied par la fédération. On va dire que ses propos à ton micro pour RMC Sport n'ont pas plu à la présidence de la fédération.
C'est le moins que l'on puisse dire, ce ne sera même pas une mise à pied, ce sera tout simplement une mise à l'écart pure et simple, immédiate. Il va être déchargé de ses fonctions d'entraîneur des épéistes messieurs. Alors c'est vrai que quand on regarde son bilan sportif à Hugo Bry, on se demande ce qu'on peut lui reprocher. Les Français avaient conquis les 2 titres individuels et par équipe il y a 1 an aux Mondiaux, les 2 titres individuels et par équipe aux Europes au mois de juin. Ils avaient trusté tous les podiums en Coupe du Monde, des résultats exceptionnels. La France était redevenue la nation numéro 1 à l'épée masculine. Mais c'est vrai qu'hier, Hugo Bry, en déclarant qu'il souhaitait arrêter après les Jeux Olympiques de 2016 parce que le système ne lui convenait pas, parce qu'on lui avait l'impression qu'on lui mettait des bâtons dans les roues, parce qu'il n'avait pas les moyens de travailler et parce qu'il s'en prenait également à Philippe Boisse, vice-président de la Fédération Française d'Escrime chargée du haut niveau, et bien ses propos n'ont pas plu du tout à Isabelle Lamour, la présidente de la Fédération Française d'Escrime. Elle les a découverts dans la presse ce matin. Elle est allée directement frapper aux portes des chambres de Christian Peters, le DTN, et de Hugo Bry. Dès ce matin, elle a demandé la mise à l'écart du Gobry, et du coup le DTN se retrouve pris entre deux feux. On écoute Christian Peters.
Je regrette tout ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Tout le monde connaît mon affection pour Hugues, pour son travail, pour son engagement. Mon regret pour ses coups de tête et ses impulsions. C'est l'homme qui est comme ça. Donc moi je l'ai pris avec ses défauts et avec ses qualités. Je suis un petit peu sous le choc de tout ce qui se passe là. Ça a été très vite. Les décisions sont prises un petit peu sous le feu de la réactivité. Je comprends la présidente, je regrette les déclarations de Hugues. J'aime beaucoup Hugues, je trouve que c'est un grand entraîneur. Je ne sais pas encore comment tout ça va se terminer. Voilà, j'ai une idée de la manière dont ça va se terminer. Et effectivement, c'est très mauvais pour le groupe et je le déplore.
Voilà, Christian Peters, le DTN, Rodolphe.
Oui, effectivement, il y a un nouveau malaise dans l'escrime française. Le pire, eh bien, ce sont pour les tireurs, les épéistes, qui sont sortis ce soir de la salle, dégoûtés après l'annonce faite par leur présidente Isabelle Lamour.
Merci Rodolphe, on va te laisser retrouver ta voix tranquillement, rentrer de Moscou avec cette équipe de France, donc d'escrime, qui revient avec 3 médailles. Le chiffre 3, lui aussi le connaît bien, c'est André Greipel, Christophe Cessieux pour la suite de l'Intégral Tour. Le gorille allemand qui a remporté sa 3e étape aujourd'hui à Valence.
Voilà, le gorille c'est pas moi, c'est l'autre. Oui. C'est André Greipel,
je me
le gorille.
Pas permis,
Oui. Au moment où tu m'as lancé,
même
en tant que petit
même
cri
si
gorille,
tu es loin, je ne me serais pas permis.
Effectivement, donc André Greipel qui signe une 3e victoire sur les routes du Tour. Il ne laisse que des miettes à ses adversaires qui n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Il ne reste plus qu'une étape en plus pour les sprinteurs. Ce sera dans une semaine sur les Champs-Élysées. On va évidemment revenir sur cette victoire. Une nouvelle fois, les Français n'ont pas décroché de victoire d'étape aujourd'hui. On va faire le bilan des Français après 2 semaines de course. Et puis, on va se pencher sur cette affaire. Puisque vous le savez, le Tour de France a peur depuis hier, depuis que Chris Froome a été légèrement agressé par des spectateurs sur le bord de la route. Alors, mythe ou réalité, on va tenter d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Entre 19h et 20h pour la suite de l'Intégral Tour, juste après les infos 19h.
RMC, Intégral Tour.